Bon, nous savons que dans la vie, nous avons tous des décisions à prendre. Mais devant certains sujets, devant certaines difficultés parfois, mais comment, en effet, prenons-nous ces décisions? Certaines, en effet, des nombreuses décisions que nous prenons chaque jour se révèlent bonnes. D'autres, non. Que pouvons-nous faire pour prendre de meilleures décisions? En ce qui nous concerne, nos compétences en matière de prise de décision sont-elles bonnes? Ne vous êtes-vous jamais demandé, et si j'avais décidé autrement, entre parenthèses, notamment lorsque nous n'arrivons pas au résultat que nous espérions? Peut-être n'avons-nous jamais réalisé que la Bible est un livre qui peut nous aider à prendre de sages décisions. Non seulement ça, mais il est rempli, ce livre est rempli d'exemples de bonnes et de mauvaises décisions et bien entendu de leurs conséquences. Il montre que de bonnes décisions, basées sur de bons principes, mènent à de bons résultats. Mais si nous prenons des décisions avec un état trop émotionnel, basé sur la colère, sur la convoitise, sur l'égoïsme, eh bien nous devons nous attendre à de pauvres résultats. La Bible révèle un principe qui s'applique dans de nombreux domaines de la vie. Ce principe nous est énoncé par la bouche de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6, verset 7, lorsqu'il dit « Nous récoltons ce que nous semons ». Donc, parfois, cette corrélation qui est tout à fait directe n'est pas toujours évidente, mais en grandissant, les résultats de nos décisions deviennent beaucoup plus clairs. Si nous regardons la Bible comme un livre pouvant aider à prendre des décisions, nous trouverons de nombreuses idées utiles. Si nous voulons faire de bons choix, nous pourrons nous épargner de nombreux problèmes en regardant de plus près les exemples enregistrés que la Bible a enregistrés pour nous dans la parole de Dieu. Donc, souvenons-nous que dès le début de la création, le premier enfant, Cain, qui est né des premiers parents, du premier couple donc, a pris des décisions égoïstes qui l'ont conduit à une vie douloureuse. Les décisions de Cain l'ont mené à son statut de premier meurtrier. Il tua son propre frère et fut banni de chez lui. Comment la vie de Cain a-t-il tourné si tragiquement? Dans Genèse chapitre 4, Genèse le chapitre 4 et le verset 1, Genèse chapitre 4 verset 1, nous voyons ici donc, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger et Cain fut laboureur. Verset 3, au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Entre parenthèses, chacun avec les produits de son travail et de leur graisse donc. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Alors, tout au début que l'on lit la Bible sans un regard bien prononcé dans l'idée, dans la chose spirituelle, on peut dire, mais chacun a offert ce qu'il avait. Donc, il faut voir plus profondément que ça. Dieu n'a pas aimé plus l'agneau que le... C'était une offrande des deux frères. Mais Dieu, rappelons-nous, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et l'attitude avec laquelle nous faisons les choses. Alors, Cain fut donc très irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, mais pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. La dernière phrase nous aide mieux à comprendre. Mais toi, domine sur lui. Autrement dit, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des pensées charnelles. Pas, j'espère bien sûr, pas comme Caïn en tant que meurtrier. Mais là, il est marqué, mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire que nous devons ne pas agir avec précipitation. C'est-à-dire prendre le temps de penser, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? C'est ça, ça fait partie aussi des décisions. Donc, Dieu dit à Caïn que s'il faisait de bons choix, il le bénirait. Donc l'offrande de Caïn ne plaisait pas à Dieu parce qu'elle montrait apparemment un manque de respect, un manque de sincérité. Un manque de sincérité, donc, de sa part. Donc cette courte histoire nous donne un aperçu sur la façon de prendre de bonnes décisions. Apprendre à mettre Dieu en premier nous éloigne de l'approche égocentrique et égoïste qui finit par conduire à la frustration et au malheur, comme nous le voyons dans cet exemple. Nous devons apprendre à dominer nos désirs égoïstes communs à chacun d'entre nous. L'attitude arrogante et la jalousie de Caïn ont eu pour résultat un acte désastreux de sa part. Le meurtre de son frère innocent Abel et son propre bannissement. Toujours Genèse chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Donc Dieu arrive et lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mais maintenant, voilà le résultat, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta part, de ta main, donc, le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Résultat de cela, Caïn a fait le mauvais choix, comme nous venons de le voir. Caïn a semé une vie de malédiction et de misère derrière lui. Il arrive aussi que des hommes responsables d'un pays ou autre commettent des erreurs graves qui se répercutent surtout sur le peuple. Vous allez voir une autre illustration de choix et de leur implication. Ceci se trouve dans la vie du premier roi d'Israël, c'est-à-dire Saül. Un jour, Saül fut confronté à un dilemme lorsque la guerre avec les Philistins menaçait la nation d'Israël. Il avait une décision à prendre, il a agi trop rapidement et sans s'occuper de ce que Dieu pensait. Il pensait, lui, qu'il devait agir. La responsabilité du commandement pesait donc lourdement sur ses épaules. Que devait-il faire? Et pourtant, il savait qu'il devait consulter le prophète Samuel. Mais comme Samuel n'était pas arrivé après 7 jours, alors que Saül l'attendait, il prit une décision tout à fait irréfléchie. Il décida tout simplement de présenter lui-même une offrande à Dieu, chose qu'il n'était pas supposé faire. Ce n'était pas dans ses cordes, ce n'était pas à lui de faire cela. Et quand Samuel arriva, peu après, eh bien, Samuel fut choqué. Il demanda à Saül, « Qu'as-tu fait ?» Quand j'ai lu ce passage, regardez ce que Dieu a dit, que nous avons lu tout à l'heure, ce que Dieu a dit à Caïn, dans Genèse. Il a dit, « Qu'as-tu fait ?» Et Samuel, ici, dit la même chose à Saül. « Qu'as-tu fait ? » Tu as fait quelque chose d'irréfléchi. Dans 1 Samuel, on va s'y reporter. Dans 1 Samuel, chapitre 13. Et commençons au verset 8. Donc il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. La chose primordiale était d'observer le commandement de Dieu. Donc Saul, on sait que la vie de Saül est parsemée d'erreurs, comme ça tout au long de sa carrière, si l'on peut dire. Saül n'était pas très sérieux dans ses entreprises. Et prenons dans Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Une autre idée que nous donne le Christ ici. Luc chapitre 16 et le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Mais ce texte s'applique aussi à Saül. Dans les moindres choses, il était infidèle. Et devant cette chose importante, il a été également infidèle. Saül décidait souvent à sa manière et non à celle de Dieu. Résultat, nous connaissons le résultat de la vie de Saül en tant que roi. Saül a perdu son règne, tomba en dépression, se tourna vers une voyante pour avoir de l'aide, plutôt que de se tourner vers Dieu. Il fit plus tard une tentative de meurtre, et à la fin prit lui-même sa propre vie. Ses décisions lui ont coûté très cher, ses mauvaises décisions. Alors, ces exemples, sont-ils pertinents pour nous aujourd'hui? Peut-être nous semble-t-il éloignés et hors du contexte de notre monde moderne. Cependant, nous devons garder à l'esprit que les principes s'appliquent toujours, les mêmes principes s'appliquent, que ce soit du temps de Caïn, de Samuel, de Saül ou à notre époque, le principe s'applique toujours. Le principe est toujours le même. N'oublions pas que nous existons dans un but. Dieu nous a créés avec la potentialité de faire un jour partie de sa famille. Donc, prendre de bonnes décisions est l'une des premières leçons que nous avons tous besoin d'apprendre. Dieu nous dit de ne pas nous fier à notre propre sagesse. Ça, je pense que ce sont des passages qu'on doit facilement se servir, lorsqu'on étudie la Bible. De ne pas nous fier à notre propre sagesse. Le Proverbe chapitre 3, Proverbe, le chapitre 3 et au verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, c'est-à-dire ne te fie pas à ce que tu penses au niveau de toi. Au verset 14 des Proverbes, Proverbes chapitre 14 et le verset 12. Proverbes chapitre 14. Le verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, une voie qui me paraît droite, si je demande à Dieu, il va me dire non, c'est pas ça. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parce qu'il faut s'adresser à Dieu avant d'agir, avant de faire quelque chose, surtout lorsqu'on a des décisions importantes à prendre. Dans 1 Corinthiens, revenons au Nouveau Testament. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Le verset 19. Oui, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ça, c'est tous des passages qui ont trait à la sagesse humaine, et ces propres sagesses que nous avons sont parfois une folie devant Dieu. Voilà ce que Dieu pense donc de nos propres décisions. Alors, comment apprendre de bonnes décisions. Alors tout ceci nous fait comprendre qu'il nous faut rechercher la sagesse. Nous sommes toujours dans le cadre d'essayer, avec l'aide de Dieu bien sûr, de prendre de bonnes décisions. Et pour prendre ces bonnes décisions, nous avons déjà vu qu'il faut faire confiance à Dieu. Faire le bon choix, il faut comprendre ça, faire le bon choix est bien plus facile quand on cherche la sagesse. Dans les Proverbes encore, chapitre 4. Et le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquier la sagesse. Donc, celui qui veut de la sagesse, qui commence à faire le nécessaire pour acquérir cette sagesse, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Mais il faut bien comprendre que c'est aussi une question de foi, une question de confiance, et une question de prendre Dieu comme partenaire, de faire travailler avec Dieu. Dans le psaume 111, Psaume 111, et le verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Il est vrai que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes submergés bien souvent d'opinions différentes, de tellement d'occasions. Mais les valeurs ne changent pas. Les valeurs de Dieu restent les mêmes. Apprendre à montrer du respect pour Dieu, créateur de toutes choses, est tout à fait fondamental pour une vie réussie. Lisons les passages. Je ne vais pas les lire maintenant, mais c'est tout le livre des Proverbes qui parle de cela. Le livre des sagesses, des Proverbes parle beaucoup de la sagesse. Dans les Proverbes, et nous pouvons ainsi, en lisant ce livre, rechercher tous les principes de la sagesse. Chaque jour, la compréhension, la connaissance, et appliquons-les pour prendre nos décisions. Le livre des Proverbes est très intéressant, d'ailleurs c'est un peu par là qu'il commence. Regardez Proverbes chapitre 1 déjà. Proverbes chapitre 1, voilà, Proverbes chapitre 1, nous voyons, ce sont les proverbes de Salomon pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Je ne continue pas, mais tout le livre des Proverbes parle de comment prendre de bonnes décisions et comment acquérir la sagesse. Donc, c'est pourquoi obéir à Dieu, il faut que nous puissions comprendre que c'est un atout. C'est du respect déjà pour Dieu, de lui demander son aide parce que j'ai une décision importante à prendre et Dieu nous donnera la décision. Après une vie de confort et de bénédiction qui a permis au roi Salomon de faire l'expérience de toutes sortes de plaisirs, de projets, il résuma ce qu'il avait appris. Vous vous souvenez de ce livre d'Ecclésiaste, il a passé partout, la folie, avec les femmes, avec ceci, avec cela, avec la richesse, la pauvreté, il a tout essayé. Sa conclusion, donc basée sur son expérience, sur l'expérience de toute une vie, fut celle-ci, qui est dans les derniers passages d'Ecclésiaste, au chapitre 12 et verset 15, où il nous dit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » C'est la conclusion d'un homme qui a tout éprouvé dans le plaisir, dans la pauvreté, dans tout ce qu'il pouvait observer en tant qu'être humain. Il a fini par dire « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Jésus enseigna à ses disciples une leçon similaire. Dans Matthieu chapitre 6, et au verset 33, Matthieu chapitre 6, verset 33, quand il dit, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Bon, il faut comprendre ici que, là encore, car lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume », eh bien, c'est déjà s'adresser à Dieu pour qu'il nous inspire, justement, pour une décision à prendre. C'est déjà chercher le royaume. Donc, nos décisions passent aussi par notre obéissance et notre confiance à Dieu. L'histoire d'un roi, dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, le chapitre 17. Le verset 8. 1 Roi, le chapitre 17, au verset 8. Il s'agit d'une part d'Élie, ici, et d'une femme veuve. 1 Roi 17, à partir du verset 8. Peut-être direz-vous, en lisant ça, quelle décision y a-t-il ici d'apprendre? Il y a une décision déjà d'obéissance, et c'est là la décision que la femme a prise. Verset 8, chapitre 17, verset 8 de 1 Roi. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. » Et Dieu dit à Élie, « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, dit la femme, je ramasse maintenant deux morceaux de bois pour faire chauffer tout ça. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » C'est tout ce que cette femme possédait, elle n'avait plus rien. Donc, pour elle, la décision, fallait prendre cette décision. Un homme lui dit, va me chercher ça, fais-le pour moi, alors qu'elle n'a rien à manger. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Autrement dit, tu ne manqueras pas si tu fais confiance à Dieu. Elle alla verset 15. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, cette femme a pris la bonne décision. Elle a agi en fonction de ce qu'elle savait qu'il fallait faire passer Dieu en premier. Elle a fait confiance à Dieu et elle a eu de quoi manger. Donc, Jésus-Christ et Salomon savaient tous les deux que les choses physiques, qui nous semblent parfois les plus importantes, ne sont pas si significatives dans le long terme. À la fin, obéir et plaire à Dieu est ce qui importe. Nous le voyons dans ces différents exemples ici que nous avons pris. C'est la seule façon de vivre une vie véritable, productive et rétributive. Nous devrions garder cela à l'esprit lorsque nous prenons des décisions. Nous avons tous, comme on l'a vu au début, tous des décisions à prendre, de petite taille si l'on veut, de grande valeur, mais dans la vie, chaque être humain a, un jour ou l'autre, des décisions parfois importantes à prendre. On ne peut les prendre en tant que chrétien, on ne peut les prendre sans Dieu. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous aider à prendre nos décisions, et ce quelqu'un, eh bien, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons développer des relations saines, et dans toute la Bible parle de relations avec Dieu. On a étudié déjà un cours, je crois, ou quelque chose comme ça, des relations que nous avions avec Dieu, mais aussi développer des relations avec nos frères et sœurs, avec des êtres humains. Dieu nous veut dans sa famille. Il veut que nous apprenions à travailler ensemble. Il veut que l'on apprenne aussi à s'entendre les uns et les autres dans la paix et aussi dans l'amour. Certains des plus grands mystères de la vie se révèle en apprenant à travailler ensemble. C'est là qu'on voit parfois le caractère des gens lorsqu'on travaille ensemble. Ce qui nécessite bien souvent de la patience, du respect et un travail parfois assez dur pour construire de véritables amitiés. Donc voir des amis pour nous encourager et nous inspirer peut-être une aide tout à fait précieuse. On a besoin parfois de se confier, demander à quelqu'un de confiance « qu'est-ce que tu en penses ?» et d'aller voir Dieu, bien entendu. Donc, il faut nous entourer de personnes qui peuvent nous aider, après Dieu bien sûr, à faire de bons choix. Souvent, en parlant à un ami proche ou à quelqu'un d'autre que nous respectons, nous sommes amenés à voir un chemin plus clair. Je dirais aussi avoir une idée plus précise de ce que nous voulons. Dans Proverbes, chapitre 27, et nous prendrons le verset 9. Voilà, Proverbes 27 au verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Les conseils affectueux d'un ami sont doux, c'est-à-dire qu'on a besoin, humainement parlant, d'avoir quelqu'un à ses côtés, soit un époux, une épouse, soit un ami, pour lui faire part de nos soucis et des décisions que nous avons à prendre. Bien entendu, il faut toujours consulter Dieu avant. Mais cela, lorsqu'on a quelqu'un qui nous épaule, eh bien, on est un petit peu plus fort, je dirais, dans nos décisions à prendre, un peu plus conforté dans ce que nous pensons, tout au moins dans ce que Dieu nous a fait penser. Bon, d'un autre côté, si d'un côté nous avons besoin de bonnes relations dans nos amis, d'un autre côté, il faut bien se méfier, parce que certaines relations peuvent nous faire du mal. Ne vous y trompez pas. C'est l'apôtre Paul qui nous parle, qui nous dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 33. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompt les bonnes mœurs. Autrement dit, voilà un exemple encore flagrant où un chrétien qui doit être le sel de la terre s'y reçoit de mauvaises paroles, mauvaises décisions, ça peut le corrompre, comme d'autres facultés corrompent le sel que nous avons vu tout à l'heure. Donc il faut se méfier à ça, les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Alors, cela veut dire qu'il nous faut choisir d'une part nos amis. Il nous faut choisir ses amis. Être autour de mauvaises personnes, celui qui est trop souvent entouré de mauvaises personnes, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis dans le monde parfois, mais si ces amis sont mal choisis, elles peuvent être des mauvaises personnes. Si nous sommes entourés trop souvent de mauvaises personnes, ces personnes finiront par affecter notre jugement et nous conduiront à prendre de mauvaises décisions. Je pense que ça, c'est tout à fait mathématique. On peut très bien, facilement, le comprendre. Dans le psaume 26, psaume 26, et le verset 4. Psaume chapitre 26, le verset 4. Bon, c'est un psaume de David. Il s'adresse à Dieu et dit même à partir du verset 3, « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Donc, ça, c'est le sel. C'est le chrétien qui doit marcher dans la vérité. Et au verset 4, il dit dans sa prière, « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. » Donc, il ne veut pas se laisser corrompre par d'autres pensées que celles de Dieu. Ce qui veut dire qu'il nous faut organiser une structure, si l'on peut dire, d'amis autour de nous. Une structure de notre vie. Structurer notre vie avec de bons amis. Par exemple, pourquoi? Parce que cela nous aide, lorsqu'on a de bons amis, il y a de bonnes idées qui passent, cela nous aide aussi à nous entraîner à être de meilleurs chrétiens. Donc, il faut organiser cela. Et un exemple que nous donne l'apôtre Paul un peu plus loin, nous allons le voir, il met que, par exemple, les athlètes de haut niveau réalisent dans leur esprit que pour accomplir de grands exploits, ils ont besoin de s'entraîner. Toujours s'entraîner avec les mêmes figures, avec les mêmes, avec leur corps, pour que leur corps soit tout à fait assujetti à ce qu'ils veulent faire. Ceux qui désirent participer, par exemple, aux Jeux Olympiques ou faire un sport professionnel, se dévouent à un programme tout à fait strict d'entraînement. L'apôtre Paul cite le régime d'un athlète avec une analogie pour montrer qu'un chrétien devrait s'efforcer de vivre une vie divine, c'est-à-dire à s'entraîner journellement à vivre une vie divine, une vie avec Dieu, une vie selon les commandements de Dieu. Dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament cette fois, 1 Corinthiens le chapitre 9, et le verset 27. En Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul dit ici, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Donc, même au niveau de son corps, de son esprit. Et un passage parallèle que l'on peut trouver, c'est une question de persévérance au niveau des athlètes, mais en tant que chrétien, il nous faut aussi persévérer. Donc, tout ça fait partie des décisions de notre vie. Dans Galates chapitre 5, verset 7, Galates chapitre 5, verset 7. C'est l'apôtre Paul encore qui dit ici, vous courriez bien. Autrement dit, il s'adresse à des chrétiens, vous courriez bien. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc, il compare encore à ce sportif dans le stade qui courait bien, il a persévéré pour apporter la victoire, et là, c'est un chrétien qui courait dans la connaissance de la vérité, qui courait, non pas sur un stade physique, mais spirituellement parlant, disons, et puis il a reçu d'autres informations qui l'ont stoppé, qui l'ont empêché, pour ainsi dire, de persévérer. Il dit, vous courriez bien, dit-il à ces gens, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est un manque de persévérance. Nos décisions doivent être fondées et réelles. C'est pourquoi, dans un monde de dépendance tout à fait facile au jeu, à la nourriture, à l'alcool, au travail ou parfois à la paresse, il est important de jeter un œil à la façon dont nous gérons notre temps. Faire de bons choix implique de poser et d'organiser des buts et de les mener à bien, c'est-à-dire les conduire jusqu'à leur terme. Donc, dans la mesure du possible, un autre trait, bien sûr, qui nous convient d'observer, c'est de trouver un travail qui ait un sens pour nous, un travail qui nous plaît, d'une part. Alors, dans Proverbes, parce que quand on a un travail qui plaît, on est beaucoup plus heureux d'effectuer ce travail. S'il nous plaît automatiquement, on le fera beaucoup mieux. Donc, ça fait partie de nos décisions. Je sais, bien sûr, que dans un contexte actuel dans ce monde, on ne fait pas toujours ce qui nous plaît. C'est vrai. On prend le travail qu'on nous offre parfois. Mais n'oublions pas qu'en tant que chrétien, il faut parfois faire aussi, mais dans la mesure du possible, un travail qui a du sens pour nous et qui nous plaît est bien plus profitable. Dans Proverbes chapitre 12, donc toujours ça va. Proverbes chapitre 12, et le verset 27. Proverbes chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il veut bien le chercher, mais il ne veut pas le faire rôtir. Bon. Mais le présent trésor d'un homme, c'est son activité. Le précieux travail d'un homme, c'est son activité. Bien souvent, on a du travail, on dit, il faut que je me repose, et c'est vrai. C'est pourquoi que Dieu a prévu cela aussi. Mais réfléchissons un petit peu, si on était tous les jours, quand on se lève le matin, qu'est-ce que je vais faire dans cette journée? Avec l'esprit vide de savoir quoi faire. Quand on a l'esprit d'aller à son travail, et un travail que l'on aime, comme on a dit tout à l'heure, ça motive, ça aide. Donc, c'est pourquoi le précieux travail d'un homme, c'est l'activité. Verset 27. Au chapitre 14 des Proverbes. Chapitre 14 et le verset 23. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voilà. Tout travail procure l'abondance. Donc Dieu nous a donné un esprit capable de découvertes incroyables, stimulé par la construction et la résolution des problèmes. Faire quelque chose de profitable peut nous aider à trouver un sens à la vie et faire passer des jours plus vite. Alors, je trouve qu'ils passent bien vite déjà. Certaines personnes, au milieu de projets stimulants, perdent la notion du temps et peuvent même oublier d'aller manger ou dormir, tellement ils sont intéressés à ce qu'ils font. Et ça arrive. Quand vous êtes vraiment intéressé à ce qu'on fait, vous êtes là soit assis devant un ordinateur ou d'autres personnes dans un bureau qui font des recherches, ceci et cela, ben, parfois ils oublient le temps qui passe. Mais ça, c'est bien dans un sens parce qu'il y a des ouvriers et j'ai vu ça, des ouvriers qui disent, ils n'arrêtent pas de regarder leur montre, ils voient midi, ils voient jamais midi ou le soir arriver, tellement ils trouvent le temps long dans leurs travaux. Donc, souvenez-vous que Dieu a donné à l'homme 6 jours pour travailler, et un jour pour se reposer. Ce qui montre l'intention de notre Créateur que nous ayons une vie productive. Donc faire de bons choix signifie travailler vers des buts productifs. Il ne faut pas oublier aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que nous avons un corps et nous devons aussi prendre soin de notre santé. Quand nous sommes malades, quand nous sommes déprimés, que nous avons mal à la tête, au foie ou à que je ne sais quoi, il est difficile d'être enthousiaste pour quoi que ce soit. Autrement dit, quand on est trop malade, pas grand-chose nous intéresse. On ne peut pas bien prendre de bonnes décisions dans un état maladif. Donc, rester en bonne santé signifie surveiller aussi notre alimentation, garder une forme physique et maintenir un mental positif. Nous fonctionnons beaucoup mieux avec un corps et un esprit en bonne santé. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cela veut dire qu'il faut garder en bonne santé notre corps en ayant une alimentation saine et garder notre esprit aussi en bon état en recevant une nourriture spirituelle saine de la même manière. Donc Dieu a donné à chacun d'entre nous un présent merveilleux et complexe sous la forme d'un corps. Et il s'attend à ce que nous en prenions soin. Chaque jour qui passe, lorsque vous vous levez chaque matin, on s'aperçoit que Dieu, aujourd'hui encore, nous donne un jour nouveau. Donc chaque jour, nous avons un contrat avec Dieu. Chaque jour, il faut respecter ce contrat. Si nous comprenons la raison de notre existence, alors nous réaliserons véritablement que Dieu nous a fait à son image. Naturellement, il veut que nous développions une relation avec lui, c'est ce que nous avons vu il y a un instant, et réaliser cela nous aide à connaître le but de nos vies et à prendre justement de bonnes décisions à cet égard, en n'oubliant pas bien sûr de nous adresser à Dieu. De sages décisions, quand elles sont issues d'un désir d'atteindre notre potentiel, rendent la vie moins stressante et procurent une meilleure rétribution. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à maintenir cette bonne perspective. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier non plus dans la parole de Dieu, et c'est un proverbe. Il y a une cause pour chaque effet. C'est-à-dire, nous avons vu que si nous prenons de bonnes décisions, les résultats sont positifs. Si nous prenons des décisions à tort et à travers, comme nous l'avons vu au début, les résultats sont tout à fait défectueux et malheureux. Donc, il y a des siècles, Dieu inspira Moïse pour présenter aux enfants d'Israël les mêmes choix que nous avons. Bon, comme nous l'avons vu, nous savons qu'il y a une cause pour chaque effet, et c'est tout à fait, je dirais, mathématique. Donc, Dieu, il y a plusieurs temps de ça, et plusieurs siècles même, Dieu inspira Moïse pour présenter aux enfants d'Israël les mêmes choix auxquels nous avons à faire face aujourd'hui. Moïse dirigeait les assemblées des Israélites pour les aider à comprendre que leur choix d'obéir à Dieu et de suivre ses commandements mènerait à la vie. D'un autre côté, choisir de ne pas obéir mènerait à la mort. Alors, choisissons sagement. N'oublions pas de nous confier à Dieu, d'avoir de bonnes responsabilités et d'avoir de bons amis qui peuvent nous aider dans ce domaine. Prenons Deutéronome pour terminer, chapitre 30. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu et pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui.